France Inter. Le journal Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Volodymyr Zelensky, bienvenue à Londres. Il est toujours disposé à signer l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Après la violente séquence hier à la Maison-Blanche, il est donc reçu depuis une demi-heure au 10 Downing Street. Il est changement de ton ce matin, cet après-midi, nous serons à Londres. À la une également, la fin aujourd'hui de la phase 1 de la trêve entre Israël et le Hamas. La phase 2 est censée débuter demain, bien fragile. Elle est pourtant indispensable à la poursuite de l'aide humanitaire dont dépendent les Gazaouis. Pour le reste, nous irons à Rennes où 100 000 jeunes de 14 à 24 ans seront vaccinés à partir de lundi contre la méningite. Nous serons à Carteret dans le Cotentin pour le retour du skipper Louis Duc. Le Normand rentre au pays après son tour du monde dans le Vendée Globe, bouclé il y a 3 semaines. Et puis nous entendrons des ululements de chouettes à l'occasion des Nuits de la Chouette tout le mois de mars, pour nous sensibiliser à la protection de ces animaux qui sont trop souvent percutés par nos véhicules. Enfin, le temps de demain, Magali Rochereau, le sud sous la pluie.
Oui Eric, le pays est divisé en deux, des éclaircies sur le nord et des nuages au sud.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Et il n'a donc pas l'intention de présenter ses excuses. Volodymyr Zelensky, malmené hier à la Maison-Blanche, pris en tenaille hier entre le président américain et son vice-président, l'Ukrainien accusé de jouer avec une troisième guerre mondiale. Eh bien cet après-midi à Londres, l'ambiance est tout autre au 10 Downing Street. Le premier ministre britannique Keir Starmer accueille depuis une demi-heure le président ukrainien. Bonsoir Laura Kalmus.
Bonsoir.
Laura Kalmus, le président ukrainien est donc le bienvenu à Londres.
Oui, et lorsque les grilles de la résidence du Premier ministre britannique se sont ouvertes pour laisser entrer le convoi présidentiel ukrainien, des acclamations ont retenti parmi le public venu attendre l'arrivée de Volodymyr Zelensky. Tout sourire, Keir Starmer a accueilli le président ukrainien avec une poignée de main, puis une accolade chaleureuse et une séance photo devant la célèbre porte noire avant de s'engouffrer à l'intérieur. Ce tête-à-tête était très attendu et on se demande désormais quelle tournure prendra-t-il. Vu de Londres, il pourrait jouer un rôle clé. En première ligne, le Royaume-Uni tente de désamorcer les tensions. Le pays s'est longtemps présenté comme un facilitateur entre l'Union européenne et les États-Unis. Désormais, il pourrait aller plus loin et se positionner en médiateur entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, d'autant plus que le Royaume-Uni met régulièrement en avant sa relation spéciale avec les États-Unis. La BBC s'interroge tout de même, les États-Unis sont-ils encore un allié fiable? L'animosité entre Trump et Zelensky est-elle trop profonde?
Et demain se tiendra à Londres un sommet sur la sécurité avec Volodymyr Zelensky et une quinzaine de dirigeants européens. Emmanuel Macron s'est dit et s'est redit aujourd'hui prêt à ouvrir une discussion pour partager notre dissuasion nucléaire française au niveau européen. Ce que dénonce Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, était interrogée ce matin au Salon de l'Agriculture. Pressée par les journalistes, elle s'était forcée de ne pas prendre position, ni pour Trump, ni pour Zelensky. Un embarras que décrypte Erwan Lecoeur, spécialiste de l'extrême droite, enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes.
Marine Le Pen est très ennuyée par la situation. D'abord parce que elle a été très longtemps une des principales soutiens, je dirais, en Europe de M. Poutine, aux côtés de M. Orban, par exemple, en Hongrie, et que de ces dernières années, elle a tenté de faire oublier cette forme de soutien qu'elle avait pu recevoir et qu'elle avait émis. Hein. Elle s'est rendue plusieurs fois à Moscou, elle a bénéficié de prêts de banques qui étaient proches du pouvoir moscovite. Donc ça, déjà, c'était une première écharpe dans le talon ces dernières années. Elle sait que le style Trump, le style Musk, le style Bannon évidemment également, le style de cette extrême droite américaine ne passe pas en France, n'est pas apprécié. Et donc elle ne veut pas y être associée trop directement. Aujourd'hui évidemment, elle est dans une situation complexe, elle ne peut pas dédire Monsieur Poutine d'une certaine façon, elle doit quand même apparaître comme vaguement une défenseuse de l'Ukraine, mais en réalité sa position pro-paix est une position d'équilibre entre l'agresseur et l'agressé.
Et alors que l'Europe s'interroge sur sa future stratégie de défense sans le parapluie américain, l'eurodéputée insoumise Manon Aubry estime que l'Union européenne aurait dû réagir plus vite afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de défense. Allons voir à présent les réactions à Moscou. Des moscovites qui, pour certains, ne cachent pas leur satisfaction d'avoir vu hier le président ukrainien subir un affront dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Julian Colling, vous êtes notre correspondant à Moscou. Eh bien, cette séquence du bureau ovale serait-elle du pain béni pour la Russie ?
Eh bien, cela y ressemble. En tout cas, rapidement hier soir, certains membres de l'élite russe avaient du mal à cacher leur enthousiasme face au clash de la Maison-Blanche. Historique en un seul mot, voilà comment a par exemple réagi sur X Kirill Dmitriev, le patron du fonds souverain russe, et surtout l'un des hommes clés de l'équipe de négociation avec Washington. Et aujourd'hui, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a elle décrété l'échec complet du voyage de Zelensky à Washington. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il était un homme inapproprié et incapable de parvenir à des accords. Ainsi, à Moscou, on semble surtout penser que la passe d'armes d'hier en Mondovision vient prouver le côté déraisonnable de Zelensky et valide le procès en illégitimité qui lui est fait par Poutine en personne depuis des mois. Mais reste à savoir quelle sera l'incidence réelle de cet épisode sur les relations russo-américaines. Rien n'a encore été fait en ce qui concerne nos propres relations avec les Américains, a remarqué une source proche du pouvoir. Si le Kremlin est ravi de voir Donald Trump endosser les discours et points de vue russes, Moscou attend de voir si le divorce sera bel et bien consommé entre Zelensky et lui, et surtout de voir si Trump décide d'interrompre l'aide militaire à l'Ukraine comme il l'a évoqué, ce qui serait un véritable cataclysme en faveur de Vladimir Poutine. À Moscou, Julian Colling, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce soir le Hamas. Le Hamas qui a publié aujourd'hui une nouvelle vidéo montrant ce qui semble être un groupe d'otages israéliens à Gaza. Vidéo non encore authentifiée par l'agence France Presse qui publie cette information. On y voit notamment un homme à visage découvert qui appelle en hébreu le gouvernement israélien à le libérer. Israël répond d'ailleurs ce soir qu'il ne se laissera pas intimider par la propagande du Hamas. Aujourd'hui s'achève donc la phase 1 de la trêve entre Israël et Gaza et une grande incertitude subsiste sur la phase 2 censée débuter demain. Une poursuite de la trêve indispensable pour maintenir notamment l'aide humanitaire dont dépendent les Gazaouis. Reportage à distance d'Étienne Monin. À distance car Gaza reste inaccessible aux journalistes internationaux.
Pour se réinstaller dans son quartier quasiment ravagé au nord de la bande de Gaza, Issam Kassem a dû revenir avec le bois et le plastique de la tente sous laquelle il s'était réfugié plus au sud au moment des combats. Ce père de famille voit les effets de l'aide humanitaire, mais il n'en a pas véritablement profité.
Moi j'ai tout perdu, je n'ai plus de maison. Là je cherche une tente, je cherche un abri. On a reçu des choses avec la trêve, mais pas pour tout le monde. Moi je n'ai pas eu de nourriture, je n'ai pas de tente.
Malgré cette frustration, pendant les 6 semaines de cessez-le-feu, les ONG et l'ONU ont réussi à relancer un certain nombre de services, parmi lesquels l'éducation, explique Olga Cherevko de la coordination humanitaire pour l'ONU.
Il y a 165 écoles, des écoles publiques qui ont rouvert. Pour les enfants, bien sûr, c'est très très important d'avoir un endroit où aller pour apprendre et retrouver un semblant de normalité.
Mais Gaza reste sous perfusion, dit Antoine Renard, directeur du Programme alimentaire mondial pour la Palestine.
Vous n'avez pour l'instant deux gros problèmes au niveau des populations. Un, elles n'ont plus de revenus. Et deuxièmement, en plus de ça, vous avez un secteur privé qui est pratiquement inexistant.
Dans ce contexte, le maintien du cessez-le-feu reste donc vital pour les Gazaouis.
Et le Hamas dit ce soir, vous refusez toute présence étrangère sur son enclave. C'est une réponse à Donald Trump qui souhaite en faire une riviera touristique.
France Inter. Éric Delvaux.
Sur l'île de la Réunion, 140 000 foyers restent privés d'électricité après le passage du cyclone Garance. Des renforts d'EDF Corse et Enedis Limousin arriveront dès demain à la Réunion en soutien aux équipes locales. Ce sera à partir de lundi sur tout le territoire de Rennes Métropole. Un plan de vaccination de grande ampleur sur plusieurs dizaines de milliers de jeunes entre 15 et 24 ans. Décision de l'Agence régionale de santé de Bretagne après plusieurs cas de méningite, Yves-René Tapon.
3 cas d'infection massive en décembre et en février à la Rennes School of Business et 3 autres cas au sein d'une famille de la métropole fin janvier. Sachant que l'enquête menée par l'ARS et Santé publique France a établi qu'il s'agit de la même bactérie, mais sans trouver un lien entre les 2 groupes de personnes infectées. Ce qui suggère une circulation de la souche en question sur le territoire de Rennes Métropole et ce qui incite les autorités sanitaires à lancer cette grande campagne de vaccination de tous les 15-24 ans de la métropole. 100 000 jeunes jeunes en tout sont concernés. La campagne commencera dès lundi avec les étudiants de la Rennes School of Business et ensuite à partir de jeudi chez les professionnels de santé libéraux et dans des centres de vaccination déployés à proximité des principaux pôles universitaires. Cette campagne devrait s'étaler sur plusieurs semaines.
Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. 81 600 personnes incarcérées selon les derniers chiffres du ministère de la Justice. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, veut contrôler les salons de massage et fermer ceux qui abritent la prostitution. Ne serait-ce qu'à Paris, il y aurait 426 salons de massage offrant des services sexuels tarifés. Une circulaire interministérielle sera publiée dans quelques jours. Les Nuits de la Chouette commencent ce soir un peu partout en France. Et vous entendez ici le cri d'une chouette hulotte. Et à partir de ce soir, donc pendant tout le mois de mars, la Ligue de protection des oiseaux organise une série de balades nocturnes. Car si la chouette chevêche et le hibou moyen-duc se portent relativement bien, la LPO est plus inquiète concernant la chouette effraie des clochers, celle qu'on appelle aussi la dame blanche, en danger donc à cause des collisions avec les voitures, explique Laurent Gouzy de la LPO.
La chouette effraie, mais pas seulement, la chouette hulotte, le hibou moyen-duc, même la chouette chevêche sont des victimes assez classiques de la route. Une des raisons principales, notamment pour les frais, c'est son mode de chasse, où elles volent très près du sol, lentement, puisque ce sont des oiseaux qui chassent à l'ouïe. Ils détectent leur proie à l'ouïe, donc ils ont besoin de voler lentement et assez bas. Et du coup, ils peuvent pas tout faire, et à la fois surveiller la route, à la fois surveiller les proies. Et souvent, les bords de route étant fauchés, tondus, ils deviennent des lieux assez attractifs, en fait, comme territoire de chasse. Donc tout combiné, c'est une espèce qui paie un lourd tribut à la route. On commence à avoir des estimations de mortalité. C'est plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux qui sont tués chaque année par la route. Une des solutions toutes simples, c'est de lever un peu le pied et de profiter parfois de cette ombre furtive un peu toute claire dans les phares. C'est souvent une effraie qui se promène.
Laurent Cousy de la Ligue de protection des oiseaux. Son triomphe au César hier à Paris. Fera-t-il oublier les polémiques? Le film Emilia Pérez s'apprête à débarquer à Hollywood pour la cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi. Le film de Jacques Audiard a reçu hier 7 récompenses françaises et il dispose de 13 nominations à Los Angeles. Mais ses chances de victoire aux États-Unis semblent s'amenuire depuis le scandale des tweets jugés racistes de la comédienne Carla Sofia Gascon. C'est ce qu'indiquent les derniers pronostics sur les sites de Paris en ligne à Los Angeles. Reportage de Corinne Pellissier.
Favorite film? Mine's Anora.
À quelques mètres du Dolby Theater et de son tapis rouge sur la promenade des étoiles d'Hollywood, comme chez les bookmakers, les pronostics se suivent et se ressemblent. Depuis un mois, le nom de Sean Baker fait une percée spectaculaire pour l'Oscar du meilleur film, quand celui de Jacques Audiard s'écroule dans les paris. En 8e position sur le site Gold Derby, parmi les plus prisés. Sa rédactrice en chef, Debra Birnbaum, est un peu déçue, mais pas tellement étonnée.
Bien sûr qu'Emilia avait une chance. C'est un film tellement surprenant, rempli de musique, de crimes. La performance est remarquable. Mais il y a eu l'affaire Carla, et l'histoire s'est écrite autrement. Pour moi, c'est un film qui avait vocation à terminer numéro 1. Obtenir 13 nominations, ce n'est pas donné à tout le monde.
Pour elle, les jeux sont faits. Les 7 Oscars récoltés vendredi par le film n'y changeront rien.
Tout ça marquer les esprits. Quand on y pense, elle aurait pu juste s'excuser. Les choses en seraient sans doute restées là. Ça s'est déjà vu. Compte tenu du contexte, si le film obtient 2 ou 3 Oscars, ils pourront être satisfaits. De toute façon, c'est trop ouvert pour qu'un seul film reparte avec 10 ou 12 récompenses cette année.
Une campagne et des rebondissements qui auront largement profité cette année au business des bookmakers avec un record d'11 200 pronostics et paris sur le seul site goldderby.com.
À Carteret, ce matin, dans le Cotentin, la carte postale était parfaite, car l'enfant du pays, le skipper Louis Duc, qui a bouclé son Vendée Globe il y a 3 semaines, est rentré chez lui en remontant le chenal de Carteret au lever du soleil à bord de son Imoca. Il est même passé en bateau devant la maison de sa grand-mère, et il y avait foule donc de bon matin sur les quais de Carteret pour accueillir le skipper Louis Duc.
C'était génial, c'est un matelot super, adorable et un très beau professionnel. Super, merci à lui.
Je l'ai vu au départ au sable et le vois ici.
C'est beau ça, vous êtes un fan alors.
On peut dire, oui. Puis ce matin c'est magique, là. Il fait beau, Il n'y a pas de vent, il a pu rentrer, il a fait son tour et il est reparti. Peut-être lundi à Caen, je ne sais pas.
un peu fan quand même.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin en le voyant arriver là?
L'émotion, c'est tout.
Ouais, beaucoup d'émotion.
Ouais. Non, c'est super.
C'est super. Donc, le retour en terre normande du skipper Louis Duc. Propos recueillis par Jacqueline Fardel. Ici, Cotentin. Aujourd'hui, l'avant-dernier skipper, Manuel Cousin, est arrivé au Sable d'Olonne après 111 jours de mer. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables. Par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonsoir Magali Rouchereau.
Bonsoir Eric.
Eh bien le ciel sera encore bien chargé demain.
Oui, il y a comme un voile épais au sud de la ligne La Rochelle-Grenoble et les averses tombent sur les Pyrénées et la partie est de la Corse. Neigeuse sur le relief à partir de 1200 mètres comme sur les Alpes du Sud à partir de 1000 mètres. Au nord de cette ligne de la Vendée aux Alpes, en revanche, c'est un temps ensoleillé qui est prévu ce dimanche avec des plaques de grisaille le matin mais de plus en plus rares au fur et à mesure de la journée jusqu'à ce que le soleil finisse par remporter la partie dans l'après-midi. Midi avec l'aide de la bise de nord-est qui amène aussi une bonne sensation de fraîcheur pour la saison.
Et ce qui provoquera d'ailleurs une baisse des températures.
Oui, demain matin les minimales sont proches de 0 degré en général dans l'intérieur du pays et comprises entre 3 et 10 degrés en bord de mer. Dans l'après-midi, elles varieront de 8 à 12 sur une bonne moitié nord et entre 10 à 15 plus au sud.
Les prévisions de Magali Rouchereau.